C'est donc le soulagement ce matin pour les parents qui ne peuvent pas télétravailler et qui doivent rester à la maison parce que l'école ou la classe de leur enfant est fermée pour cause de Covid. Après 10 jours de flou, le ministère des Solidarités et de la Santé a donc détaillé hier soir les conditions d'indemnisation. Alors que 28 établissements et 262 classes sont actuellement fermées, le détail de ce nouveau dispositif avec Hélène Philly.
Il y a 3 cas de figure. Les salariés du privé d'abord, les plus nombreux. Ils vont bénéficier de l'activité partielle sur le même principe qu'en juin dernier et donc indemnisés à hauteur de 70% de leur rémunération brute. Pour les indépendants, ce seront des indemnités journalières. Ils devront en faire la demande sur le site amélie.fr. Quant aux fonctionnaires, ils seront placés en autorisation spéciale d'absence. Le gouvernement entend répondre à l'inquiétude des familles alors que plus de 260 classes ont déjà été fermées depuis la rentrée. Mais il pose des conditions. L'arrêt de travail est prévu en cas de fermeture de la classe ou de l'établissement, crèche, école ou collège, ou bien si l'enfant est un cas contact identifié par l'assurance maladie. Les deux parents doivent être dans l'impossibilité de télétravailler et seulement l'un des deux bénéficiera du dispositif sur présentation d'un certificat. Il sera indemnisé dès le premier jour de l'arrêt de travail et jusqu'à la fin de la période d'isolement. Cela vaut pour tous les arrêts pris depuis le 1er septembre dernier.
Soulagement donc pour les parents salariés, car l'évolution de l'épidémie est inquiétante, a déclaré hier soir le président du conseil scientifique. Plus de 8000 nouveaux cas enregistrés au cours des dernières 24 heures. Le gouvernement va devoir prendre un certain nombre de décisions difficiles, estime le professeur Jean-François Delfrécy, notamment en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il préconise d'être plus actif sur la stratégie tester, tracer, isoler. Un triptyque qui peut encore être amélioré, selon les professionnels de santé rencontrés à Marseille par Mathilde Vinceneuf.
Sur les tests d'abord, les laboratoires sont submergés, alors il faut trier les patients, selon Boris Loquet, président du syndicat des biologistes dans les Bouches-du-Rhône. Il voit encore trop de personnes qui se présentent sans raison impérative.
Il faut qu'on pense à reprioriser les tests, en tout cas respecter les 3 niveaux de priorité qui nous ont été énoncés par le gouvernement. Il faut absolument pouvoir prendre les patients symptomatiques, les patients en préopératoire, les patients qui sont contact d'un cas symptomatique dans les 24 heures et pouvoir leur rendre un résultat dans les 24 heures qui suivent. Je pense que c'est fondamental pour maîtriser l'épidémie.
Ça, c'est pour les tests. Ensuite, il faut que les patients positifs ou les cas contacts s'isolent. Pas toujours facile, explique le docteur Annie Lévy-Mosiconacci. Elle raconte le cas d'une patiente enceinte et positive.
On lui dit qu'il faut respecter des gestes barrières par rapport à ses 3 enfants, sa maman qui vit avec elle. Et elle nous dit réellement que tout ça, c'est bien joli, qu'elle voudrait bien le faire, mais qu'elle a 2 chambres pour faire vivre toute cette petite famille. Et donc là, on se sent démunis.
Il faut donc, selon elle, prévoir des chambres d'hôtel pour ceux qui ne peuvent pas s'isoler et organiser une aide pour leur éviter de sortir faire les courses. Marseille, Mathilde Vinceneuf, France Inter.
À Bordeaux, les médecins s'inquiètent d'une bulle de circulation du virus chez les 15-30 ans. En quelques semaines, les indicateurs ont viré au rouge en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine qui fait d'ailleurs partie avec la Corse, l'Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes des nouvelles régions françaises classées à risque par l'Allemagne. Les touristes de retour de ces territoires doivent se faire tester et attendre chez eux les résultats. La crise sanitaire et ses conséquences économiques. Si les secteurs du tourisme et de l'aéronautique sont frappés de plein fouet, d'autres entreprises ont engrangé des profits chiffrés par l'ONG Oxfam dans un rapport publié ce matin. Sur la base des résultats financiers des 2 premiers trimestres de cette année, se pose aussi, Delphine Simon, la question de la redistribution.
Durant la crise, certaines grandes entreprises ont engrangé des profits exceptionnels qu'Oxfam évalue à 100 milliards de dollars. Parmi ces 32 entreprises du secteur de la pharmacie, mais aussi des GAFAM, Oxfam pointe le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui vient de passer en tête du classement des grandes fortunes du magazine Forbes, Quentin Parinello, porte-parole de l'ONG.
Avec les bénéfices que Jeff Bezos a réalisés pendant la crise, il pourrait verser une prime de plus de 100 000 dollars à l'ensemble des employés d'Amazon et rester aussi riche qu'il ne l'était avant la crise.
Des profits qui alimentent les actionnaires. Entre mars et juin, les 25 milliardaires les plus riches de la planète ont ainsi vu leur richesse augmenter de 255 milliards de dollars, calcule Oxfam, une somme colossale qui échappe aux États, alors même que les gouvernements tentent de relancer l'économie en puisant dans les budgets.
Il ne faut pas répéter les erreurs de la crise de 2008. On ne peut pas relancer l'économie sans demander des contreparties aux entreprises, pour que les entreprises, elles utilisent ce soutien public pour aligner leur modèle économique avec les objectifs de l'accord de Paris, donc pour réduire les écarts de salaire, pour mieux partager les richesses.
Selon un rapport européen, les revenus des entreprises dédiées aux actionnaires ont été multipliés par 4 en 25 ans. Bruxelles, qui s'en alarme, appelle à rompre avec le court-termisme économique.
Une économie au service des 1% les plus riches, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Les deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans. Implacable constat dressé ce matin par le WWF. La cause principale est la destruction des habitats naturels, notamment pour l'agriculture. Certaines espèces ont déjà disparu en France. C'est le cas notamment de la sarcelle marbrée ou du phoque moine de Méditerranée. Nous verrons ça dans le journal de 8h.
Il est 7h07, Agnès. Des relations toujours tendues entre Emmanuel Macron et les élus nationalistes corses.
Le chef de l'État est arrivé hier soir à Ajaccio pour parler ce matin tourisme et plan de relance avant de participer ce soir à un sommet des pays méditerranéens où il sera notamment question des relations avec la Turquie. Une visite, Simon Le Baron, qui a débuté donc dans une ambiance plutôt fraîche.
Pas un mot pour les résistants corses. Emmanuel Macron n'a pas pris la parole hier soir à Ajaccio au moment de commémorer la libération de la ville. Il n'en fallait pas plus pour crisper encore davantage des élus nationalistes qui se plaignent déjà d'être snobés par le président de la République. Prévenu à peine 48 heures à l'avance, pas associé à la préparation de la visite, il reproche au chef de l'État de privilégier ses amis, les maires Macron compatibles d'Ajaccio et de Bonifacio, avec dans son viseur les élections régionales dans 6 mois. Mépris, arrogance, répond le président de l'Assemblée de Corse, l'indépendant Jean-Guy Talamoni, qui a d'ailleurs boycotté le dîner organisé à la préfecture autour d'Emmanuel Macron. Gilles Simeoni, lui, a accepté un petit déjeuner ce matin en tête-à-tête avec le président de la République, mais c'est parce que le chef de l'exécutif corse espère du concret, un plan de relance à la hauteur des dégâts engendrés par la crise du Covid sur l'économie touristique. Le tsunami qui arrive selon lui sur l'île mérite bien de mettre au moins pour un temps les tensions entre parenthèses.
Christophe Castaner ou Aurore Berger, les députés de La République En Marche connaîtront le nom de leur chef de file dans quelques heures à l'issue du second tour. Hier, l'ancien ministre de l'Intérieur a obtenu 97 voix contre 81 pour la députée des Yvelines. François de Rugy, qui avait convaincu 59 députés, annonce qu'il votera ce matin pour Aurore Berger.
Il est 7h09, Agnès. L'aide d'urgence s'organise sur l'île de Lesbos, en Grèce.
Deux bâtiments de la marine grecque sont dépêchés sur place pour héberger les plus fragiles des 12 000 demandeurs d'asile du camp de Moria, ravagé par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi. 400 enfants et adolescents ont déjà été rapatriés vers la Grèce continentale avec le soutien de l'Union européenne. La situation sur l'île est intenable. Un nouvel incendie a éclaté hier. Le récit de l'envoyé spécial de France Inter en Grèce, Marie-Pierre Véraud.
Plusieurs incendies vite devenus incontrôlables ont en fait démarré simultanément en différents points, une première fois dans la nuit de mardi à mercredi, puis hier soir de nouveau, détruisant les quelques abris qui n'avaient pas encore été réduits en cendres. En longue colonne, les quelques 12 000 réfugiés, hommes, femmes, enfants ont dû fuir au cœur de la nuit, jetés dans un nouvel exode. Le gouvernement grec a apporté des tentes, des bateaux ont été dépêchés pour abriter les plus vulnérables, mais beaucoup ont passé la nuit dans les champs. S'agit-il d'incendies criminels ? Des responsables grecs accusent les migrants opposés au contrôle sanitaire après des cas de Covid, d'autres des habitants excédés. Pour Médecins sans frontières, la cause des flammes ne fait aucun doute, c'est le résultat de plusieurs années de souffrance et de violence produites par les politiques migratoires européennes et grecques. Changeront-elles ? Seuls les mineurs isolés ont pu quitter l'île. La Grèce entend reconstruire à Lesbos un nouveau camp fermé et plus contrôlé. Athènes, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
La 12e étape du Tour de France, la plus longue de cette édition 2020, 218 km entre Chauvigny et Saran, avec un arrêt prévu dans la capitale de la Poulidorie. Saint-Léonard de Noblat, en Haute-Vienne, la ville de Raymond Poulidor, évidemment, éternel numéro 2 de la Grande Boucle. Au général, le Slovène Roglic est toujours en jaune. Victoire d'étape hier pour l'Australien Ewan. Et puis le PSG démarre ce soir enfin sa saison de Ligue 1 avec un déplacement à Lens, initialement prévu le 29 août, et reporté pour cause de Ligue des Champions. Le PSG privé de 7 joueurs, cette fois pour cause de Covid-19. Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi, Paredes, Marquinhos et Navas sont à la maison. Enfin, direction Londres, où les fans des Rolling Stones ont désormais une adresse où assouvir leur passion. Le mythique groupe de rock a ouvert une boutique sur Carnaby Street, une rue désormais huppée et touristique, qui était le lieu tendance dans les années 60-70. Aucun membre du groupe n'était là pour cette inauguration, mais les fans, eux, avaient répondu présents. Et parmi eux, Richard Place.
Dehors, près de 300 personnes font la queue, une file d'attente version Covid, sans bousculade, avec distanciation. Alan y a passé plusieurs heures, fan des Rolling Stones depuis 1964. Il dresse la liste de tout ce qu'il veut acheter.
T-shirts, flasks.
Des t-shirts, des gourdes, des vinyles, tout. J'ai une grosse carte de crédit. J'ai appelé mes fils Mick et Keith, comme Jagger et Richards. Ça fait rire toute la famille.
Dans la boutique, on trouve un briquet à 39 euros, un baby-gros à 22 euros, un parapluie à 28 euros et quelques articles beaucoup plus chers comme ce blouson en cuir à 360 euros. David Boyne est le directeur général de Bravado au Royaume-Uni, la filiale d'Universal qui gère le magasin. Il assiste à l'aboutissement de 2 ans de travail.
Les fans des Rolling Stones sont parmi les plus acharnés dans le monde et on le voit bien aujourd'hui.
Sabine n'a pas encore fait le moindre achat mais elle a déjà une veste Rolling Stones, un t-shirt aussi, le sac également. Fan absolu et les yeux écarquillés comme un enfant dans un magasin de jouets.
C'est exactement ce dont on a besoin en ce moment, que ça brille un peu. C'est très appréciable.
L'article qui connaît le plus grand succès, c'est le masque, évidemment. Décidément, les Rolling Stones savent rester tendance. Londres, Richard Place, France Inter.
Le masque des Rolling Stones, désormais collector.
Ouais, on a envie de l'avoir. Merci Agnès Soubiran.